RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous. C'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Des recherches sous les décombres en Birmanie et en Thaïlande.
Pour tenter de retrouver des disparus après l'effondrement de bâtiments, la terre a tremblé fort hier dans ces deux pays. Et la junte birmane en appelle à l'aide internationale. Dans ce journal également, une manifestation d'ampleur attendue aujourd'hui à Istanbul, 10 jours après l'arrestation de l'opposant Ekrem İmamoğlu. On va revenir aussi sur la visite hier du vice-président américain J.D. Vance au Groenland, sur une base militaire américaine. Les États-Unis qui suspendent la délivrance de visas aux ressortissants tchadiens. On est à N'Djamena dans ce journal et puis on est aussi à Barcelone en Espagne où la condamnation pour viol du footballeur brésilien Dani Alves a été annulée en appel. Les organisations féministes s'indignent.
Les dégâts sont lourds en Birmanie.
Mais difficile de dire à quel point pour l'instant, alors que les lignes de communication sont endommagées au lendemain du séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le pays. Le bilan humain est très provisoire, mais déjà très lourd. La junte au pouvoir parle désormais de près de 700 morts et plus de 1600 blessés. Et indice de la gravité de la situation, le chef de cette junte a très vite lancé hier un appel à l'aide internationale. De nombreux pays ont d'ores et déjà promis leur assistance, mais il est fort probable que les militaires au pouvoir ne distribuent l'aide qu'ils recevront que dans les zones sous leur contrôle. C'est ce que nous dit craindre Johanna Chardonnieras de l'ONG Info Birmanie.
On sait que la junte, malheureusement, a instrumentalisé beaucoup de catastrophes naturelles en Birmanie jusqu'à maintenant. Il faut vraiment que les gouvernements et les agences internationales qui sont prêtes à aider la population birmane après ce séisme fassent attention à ce que l'aide ne passe pas uniquement par les administrations de la junte. Il y a plusieurs administrations en Birmanie, à commencer par le NUG et les administrations des groupes armés ethniques qui doivent être impliquées dans cette réponse humanitaire à l'échelle nationale. On a vu la junte, par exemple, qui redistribue l'aide humanitaire uniquement dans les zones sur son contrôle, qui va la bloquer dans les zones hors de son contrôle, qui va demander des papiers sur les personnes qui vont récupérer l'aide humanitaire. Donc ça leur permet d'identifier et de contrôler des personnes. Ce genre de choses est très régulièrement fait par la junte, qui bloque en plus. Il y a vraiment un blocus depuis plusieurs mois sur l'afflux de biens, notamment alimentaires et médicaux, dans les zones hors de son contrôle. Avec la catastrophe naturelle d'aujourd'hui, ça doit cesser, l'aide doit pouvoir arriver dans ces zones.
Des propos recueillis par Eike Schmidt.
Et si l'épicentre du séisme est en Birmanie, la terre a tremblé jusqu'en Thaïlande.
À Bangkok, un gratte-ciel de 30 étages en construction s'est effondré, piégeant des dizaines d'ouvriers. Les autorités disent avoir reçu plus de 2000 signalements de dégâts pour d'autres bâtiments de la capitale. Une centaine de spécialistes ont été déployés sur place pour contrôler la sécurité des infrastructures. Alors certains habitants préfèrent attendre avant de rentrer chez eux, d'autres ne le peuvent tout simplement pas, coincés dans les embouteillages, bloqués par la fermeture du métro. Pour tout cela, le gouverneur de Bangkok a pris la décision de laisser les parcs publics ouverts toute la nuit. Reportage de Valentin Sébron.
À bord de leur mobylette, deux bénévoles déambulent en pleine nuit dans le parc Chatuchak, au nord de Bangkok, pour distribuer de la nourriture. Ce sont des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, disent-ils, ou qui habitent près du bâtiment qui s'est effondré. Parmi eux, Oil est venu avec sa femme et ses enfants en bas âge. Il est encore traumatisé.
On se fait du souci pour notre sécurité. Ma femme a vu l'immeuble s'écrouler de ses propres yeux. Ça fait tellement peur. On nous a dit que des secousses pouvaient revenir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on préfère rester dans le parc, loin du danger.
Un peu plus loin, deux jeunes femmes ont installé un tapis sur l'herbe. Homme ne veut pas rentrer chez elle.
Dans mon appartement, il y a une fissure et l'immeuble dans lequel je vis n'est pas droit. Ils sont encore en train de vérifier si tout est sécurisé. Je panique en pensant aux secousses. Je sens que je ne peux pas retourner chez moi.
Juste derrière le parc, les recherches sont toujours en cours pour retrouver les ouvriers de la tour en chantier qui s'est effondrée. Selon la presse locale, 101 personnes étaient dans la soirée, toujours piégées sous les décombres. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
Valentin Sébron, que l'on retrouvera en direct de Bangkok dans le journal de 6h, temps universel. Le président libanais Joseph Aoun annonce l'ouverture d'une enquête. Pour lui, le Hezbollah n'est pas responsable des tirs de roquettes d'hier vers le sol israélien, contrairement à ce qu'affirme l'armée israélienne qui, en représailles, a repris ses bombardements dans la banlieue sud de Beyrouth.
8h05 à Istanbul, qui se prépare à une large mobilisation ce samedi.
À l'appel du Parti républicain du peuple, la formation d'Ekrem İmamoğlu, désormais ancien maire maire de la ville puisqu'il a été démis de ses fonctions après son interpellation. Il est depuis incarcéré, poursuivi pour corruption. Pour l'opposition turque, aucun doute, c'est une manœuvre des autorités pour barrer la route à celui qui s'imposait comme le favori de la prochaine présidentielle. Alors les manifestations sont quotidiennes à Istanbul. Les arrestations aussi, plus de 2000 en 10 jours selon le gouvernement. Et face à la répression, une réaction assez timorée, celle des Européens. Pour Aurélien Denisot, chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, les raisons sont géopolitiques.
Face à la crainte d'une espèce de condominium russo-américain que l'on pourrait voir se profiler à long terme, il y a l'idée que les Européens doivent essayer d'améliorer leurs relations avec d'autres partenaires, notamment les partenaires régionaux. Et bien sûr, la Turquie qui donne à la fois sur la mer Noire face à la Russie et sur le Moyen-Orient est considérée comme un partenaire indispensable. Il y a aussi un effet de prévision des Européens que le régime Erdogan, pour l'instant, ne va pas s'effondrer. C'est-à-dire que le gouvernement du président turc garde toujours une base de soutien qui s'effrite progressivement, mais qui reste assez solide. Il pourrait perdre les prochaines élections, mais les prochaines élections ne sont pas prévues avant au moins 2027. Donc tous ces éléments, je pense, ont conduit les Européens à se dire que finalement, une critique trop directe de la répression menée par Recep Tayyip Erdogan n'amènerait pas forcément grand-chose.
Des propos recueillis par Marine de la Moissonnière.
Le Danemark a échoué et les États-Unis feraient mieux. C'est en substance le message du vice-président américain J.D. Vance.
Un message délivré depuis le Groenland où il a visité hier la base américaine de Pitufik. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump dit vouloir prendre le contrôle du Groenland, ce territoire danois autonome. Correspondance depuis New York de Karine Houghton.
J.D. Vance a adopté hier la méthode de Donald Trump. Premièrement, dénigrer l'adversaire sans se soucier des détails factuels. Deuxièmement, croire à tout prix en quelque chose pour que cela se réalise. Le vice-président, devant un échantillon des 150 soldats de Pitufik, a tout de go fustigé le Danemark.
Notre message au Danemark est très simple. Vous n'avez pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland.
Il estime que le Danemark n'a pas assez investi à la défense de l'Arctique, à la défense des États-Unis. La chef du gouvernement danois, Mette Frederiksen, a rétorqué par communiqué et s'est aussi dite prête à coopérer jour et nuit avec les Américains sur la sécurité dans l'Arctique. Un peu plus tôt, Donald Trump avait déclaré, lui, avoir besoin du Groenland, ce qu'a relayé J.D. Vance.
Cela doit arriver. Nous devons prendre une position significative au Groenland. Nous pensons que les habitants du Groenland sont rationnels et que nous allons pouvoir conclure un accord à la Donald Trump pour assurer la sécurité de ce territoire, mais aussi des États-Unis d'Amérique.
Et si les Groenlandais, en grande majorité, ne voulaient pas de cette visite américaine imposée, ils ont arrêté hier la composition de leur nouveau gouvernement de coalition, représentant 75% de la population. Il s'est déjà dit contre toute pression américaine. Karine Houghton, New York, RFI.
Des pressions américaines également au Tchad.
Depuis quelques jours, les États-Unis suspendent la délivrance de visas aux ressortissants tchadiens pour une durée de 90 jours. Les rendez-vous à l'ambassade américaine ne sont plus accordés pour l'instant. Correspondance Anjamena de Nadia Ben Mafoud.
Cette suspension temporaire concerne les visas touristiques, d'études et d'affaires, mais ne s'applique pas aux demandeurs de visas diplomatiques ni à ceux en possession d'une carte de résident. Les tchadiens peuvent néanmoins effectuer une demande de visa depuis l'ambassade américaine d'un pays tiers. Dans un communiqué officiel, Ibrahim Adam Mahamat, porte-parole du ministère tchadien des Affaires étrangères, dit regretter cette décision et affirme sa volonté de collaborer avec les autorités américaines pour clarifier les raisons de cette suspension afin qu'elle soit levée rapidement. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, d'autres pays sont concernés par cette évolution des règles d'entrée aux États-Unis. Il y a une dizaine de jours, une liste a fuité indiquant la mise en place de restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays, dont 22 États africains. Ils sont répartis en trois catégories selon les restrictions imposées. Le Tchad figure sur la liste jaune, la moins contraignante des trois. Les pays qui y sont mentionnés auraient un délai de 60 jours pour rectifier ce que Washington considère comme des manquements sécuritaires. Mais pour le moment, ces informations n'ont pas été confirmées officiellement par le gouvernement américain. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
En Espagne, un acquittement qui fait polémique.
Celui du footballeur brésilien Dani Alves, pourtant condamné en première instance pour le viol d'une jeune femme dans une boîte de nuit de Barcelone. C'était en 2022. Condamnation annulée en appel. La cour a pointé du doigt le manque de fiabilité de la plaignante. Ça ne manque pas de faire réagir. À Barcelone, reportage d'Élise Gazangel.
L'acquittement de l'ex-footballeur Dani Alves a surpris tout le monde ce vendredi, à commencer par l'avocate de la plaignante, Esther Garcia. Spécialisée dans les affaires de violences sexuelles, elle affirme n'avoir jamais eu d'appel révoquant une première condamnation.
Ça représente un retour en arrière aussi bien au niveau juridique que social dans la lutte contre les violences sexuelles. Et d'une certaine manière, cela démotivera aussi les femmes à dénoncer ces agressions.
Pour justifier l'acquittement, les magistrats ont insisté sur le manque de fiabilité de sa cliente. Le doute doit alors profiter à l'accusée, même si la Cour souligne qu'elle ne croit pas forcément la version du sportif. Pour la partie civile, un pourvoi en cassation est encore possible.
Juridiquement, on devrait faire appel, c'est sûr, mais cela dépend si notre cliente peut tenir le coup pendant ce temps, parce qu'elle est évidemment très déçue, triste, et elle l'a vécu comme si elle retournait dans ses toilettes où ça s'est passé.
La plaignante a reçu de nombreux soutiens, dont celui de la ministre de l'Égalité, Ana Redondo, qui estime que cette décision envoie un mauvais message à la population. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Et on referme ce journal, Gaëtan, dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer.
Et c'est là-bas que se trouve Nausicaa, le centre national de la mer, où 60 jeunes venus des 5 continents ont pu se former toute cette semaine pour devenir des experts des changements environnementaux. Alors la formation est finie, une dizaine d'entre eux vont maintenant défendre le manifeste de la jeunesse pour l'océan. Ce sera lors de la conférence des Nations Unies début juin à Nice. Mais pour leur reportage à Boulogne-sur-Mer, pour leur formation, c'est avec Jérôme Bosman.
Au terme d'une semaine de travail dans une ambiance multiculturelle, il est l'heure pour les citoyens de l'océan de rendre leur copie. À tour de rôle, ils exposent leurs recommandations pour protéger les mers et leurs habitants.
Nous, représentants de la jeunesse, demandons une augmentation du financement et des investissements en faveur de l'océan. Cela peut être réalisé par l'établissement d'un modèle économique durable qui garantisse 50 millions de dollars par an à partir de 2035 pour des politiques de préservation à long terme.
Autre préconisation importante, la ratification du traité international sur la haute mer, un enjeu crucial pour le succès de la conférence de Nice. Ana Elena Pinto-Lissano, ambassadrice du Costa Rica, pays co-organisateur du sommet, était dans l'assistance.
La France et le Costa Rica ont fait depuis plusieurs mois un travail très intense auprès des pays du monde. Il est très important que nous arrivions à avoir toutes les ratifications dont nous avons besoin pour qu'ils rentrent en vigueur.
Yvonne Agen, responsable des relations internationales à Nausicaa, espère que le manifeste sera utilisé à tous les niveaux.
J'aimerais bien que ça soit un document de référence pour qu'ils puissent mettre en place chez eux les actions concrètes qu'ils peuvent utiliser au niveau international, aussi bien à Nice qu'ailleurs, comme aux conférences climat au Brésil.
Les jeunes demandent enfin qu'à Nice, leur voix soit réellement écoutée. Jérôme Bosman, de retour de Boulogne-sur-Mer, RFI.
Et à Boulogne-sur-Mer, comme à Paris, il est 6h13, RFI matin. C'est parti avec vous, Julien Coquel-Rohen.
Merci Gaëtan Planet, à tout à l'heure. Samedi 29 mars 2025, RFI matin, 3 heures d'information et à la une, la situation en Birmanie et en Thaïlande. Bientôt 24 heures après le puissant séisme qui a frappé la région. Une magnitude de 7,7 et un bilan déjà très lourd. Plus de 1000 morts désormais côté birman, des dégâts côté thaïlandais et l'attente alors que des dizaines d'ouvriers restent piégés sous les décombres d'un immeuble à Bangkok. On fait le point sur la situation dans la capitale thaïlandaise avec notre correspondant Valentin Sébron à 6 heures, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi cette annonce tombée tard dans la soirée d'hier en Guinée. Le général Mamadi Doumbouya accorde la grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara, condamné l'été dernier à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité, pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. On fera le point dans le prochain journal à 5h30, temps universel. Et puis deux mois après le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, où sont les démocrates lourdement défaits et très effacés face au rouleau compresseur du président. On en parle avec notre invité, le porte-parole des Democrats Abroad en France. Jim Cohen est avec nous dans une heure. Mais pour commencer ce matin, c'est au Japon que nous partons, géant économique en plein recul qui a cédé l'an dernier à l'Allemagne sa troisième place au classement des économies mondiales. Une économie en récession, mais un secteur qui se porte bien, celui du tourisme, avec 37 millions de voyageurs étrangers l'an dernier. Le pays fait de plus en plus rêver et la chute libre de la monnaie locale y est aussi pour beaucoup. Le yen a plongé de 35% face au dollar et de 17% face à l'euro en seulement 10 ans. Depuis l'été dernier, une pratique se répand au Japon pour faire de cette explosion du tourisme une manne financière. des tarifs différenciés en fonction de la nationalité des clients. Dans un nombre grandissant de restaurants, d'hôtels, de musées, les touristes étrangers sont priés de payer davantage que les Japonais. À Tokyo, Bruno Duval.
L'an dernier, les touristes étrangers venus au Japon y ont dépensé la somme faramineuse de 8000 milliards de yens, près de 50 milliards d'euros. Une manne providentielle donc pour une économie nationale qui ne va pas bien. Pour autant, Kotaro ne culpabilise pas d'avoir instauré des tarifs différenciés. Dans son restaurant, les clients étrangers payent 10% de plus que les Japonais. Car, ne parlant pas un mot d'anglais, il a dû engager une serveuse bilingue, ainsi que faire traduire et imprimer des menus en plusieurs langues. Et puis, à ses yeux, ce système offre un grand avantage.
Sans cette petite contribution que je demande gentiment aux clients étrangers, j'aurais dû répercuter la hausse du prix des produits alimentaires sur mes tarifs et donc proposer des menus moins abordables au détriment de mes clients japonais.
À Asakusa, le quartier le plus touristique de Tokyo, les avis divergent.
En termes d'hospitalité, je trouve ça moyen. On devrait remercier, pas pénaliser tous ces touristes qui nous font l'honneur de leur visite.
Quelques yens, en plus ou en moins, ils s'en fichent. Ils roulent sur l'or grâce au taux de change.
Je ne suis pas du tout sûre que les Japonais en vacances à l'étranger apprécieraient de devoir payer plus que les locaux.
Trier les clients en fonction de leur origine, on a beau dire, mais au bout du compte, cela relève du délit de faciès, c'est très délicat. Le cliché de l'infinie courtoisie japonaise va en prendre un coup.
Ces touristes étrangers, tout autant, sont partagés.
Si cela devient vraiment difficile pour les Japonais en raison de la hausse du coût de la vie, c'est peut-être une bonne idée de pratiquer de tels tarifs différenciés.
Ces prix majorés pour les visiteurs étrangers, selon moi, automatiquement, ça va les dissuader. Certains vont trouver inéquitable de devoir payer plus.
Certains commerçants vont encore plus loin. À la devanture de ce minuscule restaurant de nouilles, par exemple, un écriteau rédigé en anglais informe que l'accès est réservé aux clients parlant le japonais. Son gérant se justifie.
Je suis nul en langues étrangères, je n'ai pas les moyens d'engager du personnel bilingue. Et je suis tout seul à la cuisine et au service. Donc, les dialogues improbables en français, en espagnol ou en swahili via des applis comme Google Trad, désolé mais non merci. Je suis beaucoup trop occupé pour ça.
Le droit japonais tolère de telles restrictions d'accès fondées sur la nationalité ou la langue, considérant qu'elles relèvent de la liberté commerciale. Renaud Duval, Tokyo, RFI.
Notre reportage international au Japon à retrouver sur RFI.fr. 5h17 à Ouagadougou et en temps universel comme chaque samedi sur RFI, la une de Jeune Afrique nous ouvre les pages du magazine. François Soudan, son directeur de la rédaction, est au téléphone d'Amélie Beaucourt.
Cette semaine, Jeune Afrique revient sur le déroulement et les suites du massacre de civils peuls à Solenzo dans l'ouest du Burkina Faso. Bonjour François Soudan.
Bonjour Amélie.
Les images chocs de ce massacre qui ont largement circulé sont selon vous irréfutables?
Tout à fait. Les vidéos insoutenables hein, que nous avons évidemment checkées, vérifiées de ces massacres commis les 10 et 11 mars dans une zone rurale de la province des Banois à l'ouest du Burkina Faso, vidéos filmées hein, par leurs auteurs eux-mêmes qui les considèrent manifestement comme des exploits, sont de toute évidence authentiques et les autorités burkinabées qui parlent de vidéos truquées sont bien en peine de démontrer le contraire. On y voit des miliciens VDP relevant de deux unités clairement identifiables sur les images, le groupe d'autodéfense de Mawana et la force rapide de Kuka, s'en prendre jusqu'à les massacrer à des familles entières de civils peuls. Nous sommes ici dans la région de la boucle du Moun, hein, frontalière avec le Mali, qui est l'une des régions les plus frappées par le terrorisme au Burkina. Il s'agit très vraisemblablement d'une opération de ratissage anti-djihadiste qui, une fois de plus, a dérapé en exaction contre des populations suspectées de collaborer avec l'ennemi. À noter, Amélie, que ces miliciens VDP étaient censés être contrôlés, encadrés dans cette région par le 18e bataillon d'intervention rapide de l'armée burkinabé, lequel manifestement n'est pas intervenu, on dénombre au minimum 58 victimes.
Quelle a été, François, la réaction des autorités burkinabées après la diffusion de ces vidéos?
Alors, face à l'émotion suscitée par ces images, une double réaction. La première, qui est censée aller dans le sens de l'apaisement, à usage autant externe qu'interne d'ailleurs, a été le 20 mars, l'ouverture d'une enquête judiciaire, non pas sur le massacre de la région de Solenzo lui-même, qui demeure tabou, hein, comme les autres, mais à l'encontre de ceux qui, à travers leur profil ou leur page Facebook, partagent ce type de vidéos en les accompagnant de messages quasiment génocidaires, hein, appelant à l'extermination des Peuls via les opérations dites « zéro Peul ». La seconde réaction, elle émane du capitaine Ibrahim Traoré lui-même, à l'occasion d'un discours prononcé le 22 mars à Zignaré, sous la forme d'une sorte de cadrage idéologique. Pour lui, le Burkina est la cible d'une guerre de communication menée, je cite, par des médias impérialistes mensongers, qui cherchent à diviser et à manipuler les Burkinabés. Et il conclut, le capitaine Traoré, si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. Alors, une menace, clairement, hein, rapidement suivie des faits, puisque on sait, 5 membres de l'ONG Sens qui avaient dénoncé le massacre des Banois ont été kidnappés en plein Ouagadougou par des agents des services de sécurité, suivis quelques jours plus tard, Amélie, par 2 journalistes qui avaient eu l'audace de critiquer la caporalisation des médias d'État.
Est-ce qu'on peut parler de ciblage de la communauté Peul par les forces de défense et de sécurité ?
Alors, il n'y a aucune déclaration officielle des autorités burkinabées allant dans ce sens, hein, dans le sens d'un ethnocide, je crois qu'il faut le dire. Mais on ne peut que constater une forte tendance à cibler cette minorité, qui représente entre 7 et 8% de la population, dans les actions de ratissage, de répression antiterroriste, un phénomène que l'on retrouve, quoi qu'à un degré moindre, au Mali, hein, où une milice comme Danam Bassougou a, tout comme les Burkinabés et les VDP, été recrutée sur une base qui est essentiellement communautaire. Alors bien sûr, c'est un cercle vicieux, puisque les djihadistes profitent très cyniquement de chaque exaction pour recruter massivement des combattants et des cadres intermédiaires au sein d'une population Peul, qu'un narratif aussi répandu que toxique à travers le Sahel présente comme une sorte de cinquième colonne transhumant à travers des frontières poreuses. C'est cet amalgame dangereux entre Peul et djihad que dénonce dans nos colonnes le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Amélie.
Des articles sur le massacre de civils Peul à Solenzo au Burkina Faso à retrouver sur le site jeuneafrique.com. François Soudan, merci.
Merci Amélie.
François Soudan de Jeune Afrique au téléphone d'Amélie Beaucourt. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Que nous apprennent les crottes de dinosaures publiées dans la prestigieuse revue scientifique Nature ? L'analyse des excréments fossilisés de dinosaures nous permet de mieux comprendre comment ces animaux sont devenus prédominants sur toute la Terre.
Dis-moi ce que tu as mangé et je te dirai qui tu es. Le paléontologue Martin Kvarnström de l'université d'Uppsala en Suède et son équipe ont fait de surprenantes découvertes en analysant des centaines de fossiles d'excréments, mais aussi des résidus de vomi fossilisés de dinosaures mis au jour en Pologne et datés de 200 millions d'années, soit précisément la période fin du Trias, début du Jurassique, qui a vu l'ascension des dinosaures. Pourquoi un tel essor de ces animaux pendant des millions d'années ? Comment les dinosaures sont-ils devenus prédominants sur Terre et pendant si longtemps ? Comment expliquer un tel succès évolutif ? C'est pour le comprendre que le paléontologue suédois n'a pas hésité à mettre la main dans les bromalites. C'est ainsi qu'on appelle ce matériel digestif fossilisé. Ces restes d'excréments et de vomi, jusqu'alors négligés ou jugés anodins, révèlent à qui sait les faire parler, selon des techniques de pointe récentes révèlent non seulement ce que mangeaient les dinosaures, mais aussi comment leur alimentation a évolué au cours des millénaires et des millions d'années et comment ils se sont adaptés à tous les changements climatiques et à toutes les extinctions d'espèces.
Comment ces chercheurs ont réussi à faire parler ces bromalites et qu'ont-ils trouvé ?
C'est avec toutes sortes de microscopes, Julien, que les chercheurs ont analysé ces restes digestifs fossilisés de dinosaures et notamment avec la technique de microtomographie synchrotron, un accélérateur de particules pour voir en détail l'intérieur des fossiles. Ils ont aussi utilisé des solutions chimiques pour inspecter le contenu exact de ces restes et ils ont été très surpris par leur découverte. Comme l'explique le paléontologue Martin Kvarnström à mon confrère Joël Ignas de Science et Avenir, surpris de voir des scarabées entiers par exemple, parfaitement conservés depuis 200 millions d'années avec leurs pattes et leurs antennes, ou des morceaux de dents écrasés appartenant aux proies de dinosaures consommateurs d'os. Ce qui a aussi frappé ces paléontologues, spécialistes des dinosaures primitifs, c'est l'énorme diversité et variété de plantes retrouvées dans ces restes digestifs fossilisés. Et surtout le charbon, que les dinosaures ingéraient en grande quantité, probablement pour détoxiquer leur contenu stomacal, d'où le vomi, et qui montre leur capacité à manger tout et n'importe quoi. Et c'est bien ce régime alimentaire aussi diversifié, cette capacité d'adaptation des dinosaures à tous les changements climatiques et aux extinctions d'espèces, qui expliquerait leur succès évolutif à nul autre pareil, et leur prédominance par rapport aux autres espèces d'herbivores, tous beaucoup plus spécialisés. Dis-moi ce que tu as mangé, je te dirai comment tu vas évoluer. Le très long règne des dinosaures se lirait donc en partie dans leurs excréments, dans ces bromalites que les paléontologues tout terrain commencent juste à décrypter pour éclairer le passé des dinosaures, mais aussi notre futur, celui des grands mammifères terrestres, capables ou non d'adapter leur régime alimentaire au changement climatique et à une moindre biodiversité, en rappelant juste que les dinosaures, eux, ont eu des milliers d'années pour évoluer, comme le montre l'analyse de leurs crottes fossilisées depuis 200 millions d'années.
Jusqu'où va la science ? Merci Caroline Lachowski. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, Jennifer, une chronique qui va ravir les fans de Nintendo.
Jeudi dernier, la marque a retransmis en live son événement Nintendo Direct pour présenter ses nouveautés. Entre les lancements de jeux et les changements qui annoncent l'arrivée de la Switch 2, voici le débrief du Nintendo Direct. Une bonne vingtaine de jeux arrivent sur Nintendo Switch cette année, je vous ai fait une sélection des annonces les plus marquantes. D'abord, les fans de Disney seront servis avec l'annonce de Disney Vilain Café Enchanté. Il était une fois un jeu de gestion d'un café dont la clientèle se trouve du côté obscur des méchants de nos Disney favoris. Ursula, Gaston, Yzma, Maléfique ou encore Docteur Facilier attendent qu'on leur serve bien plus que des boissons chaudes. Vous y fabriquerez d'étranges potions aux effets variés qui auront un impact sur la suite du jeu. Disney Vilain Café Enchanté est d'ores et déjà disponible sur les stores.
Continue avec le retour d'un jeu bien connu des anciens, Jennifer.
Nintendo vient d'annoncer Metroid Prime 4 Beyond, un jeu d'action-aventure à la première personne où on incarne un héros portant un costume intergalactique. Ceux qui connaissent le jeu savent que ses développeurs avaient marqué leur époque en annonçant à la fin que sous l'armure se trouvait en vérité non pas un héros mais bien une héroïne du nom de Samus Aran. Dans ce nouvel opus qui sortira en 2025, la chasseuse de primes va embarquer pour une nouvelle mission. Si vous avez envie d'un jeu bien rétro où vous pourrez combattre en incarnant des super-héros comme Spider-Man, Captain America, Storm ou encore The Flash, Marvel Cosmic Invasion est fait pour vous. Seul ou à deux, vous pourrez faire un saut dans le temps avec ce jeu de combat en 2D développé par le studio français Dotemu, à l'origine notamment de Streets of Rage, et de l'autre studio Tribute Games. Ce jeu s'adresse principalement aux fans de ce qu'on appelle les beat'em all, donc des jeux où vous ferez face à un nombre important d'ennemis. Beaucoup de jeux intéressants, hein. Nintendo a également annoncé Pokémon Legends ZA, bientôt disponible pour tous ceux et celles qui ne les auraient pas encore attrapés. Mais également Witchbrook, une école de magie tout en pixel art, Tamagotchi Life et Plaza, High on Life, les trois éditions de Monument Valley, le retour du jeu Patapon pour ceux qui s'en souviennent, Star Wars Overdrive, Saga Frontière 2, Story of Seasons et bien plus encore.
Qu'en est-il des annonces de la Switch 2, Jennifer ?
Alors ça, c'était les annonces de sortie pour Nintendo Switch 1, mais d'après le site Insider Gaming, la Switch 2 devrait sortir en juin 2025 et proposerait de nouveaux opus comme un Mario Kart 9 ou encore un nouveau Mario 3D. Autre nouveauté pour vous, on sait déjà que les détenteurs de la Switch 1 devront acheter des cartes virtuelles pour pouvoir accéder à leurs jeux achetés dans la boutique Nintendo et donc ne disposant pas de cartouches sur la Switch 2. Pour rester à jour sur toutes les actualités Nintendo, la marque sort son application Nintendo Today à télécharger sur mobile. Enfin, ne manquez pas le prochain Nintendo Direct qui vous donnera toutes les infos sur la Switch 2 le 2 avril prochain sur YouTube à 15h française.
Et on suivra ça. Merci Jennifer Lufaux et bienvenue dans le game. C'est tous les samedis sur RFI.
Du Maghreb, Juliette Rangeval.
La France perd de l'influence en Algérie et cela profite à l'Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni a un plan pour l'Afrique du Nord. Migration, hydrocarbures, commerce, le courant passe bien d'Alger à Tunis ou à Tripoli. Prochaine étape pour Rome, la Mauritanie.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Jupiter et Noques débarquent avec Ekoya, un album trépidant, turbulent, bouillonnant qui fait briller la richesse culturelle du Congo. Fusionnant les traditions de 450 ethnies et des influences mondiales,
Jupiter Bokunji défie les clichés et nous invite à sa croisade humaniste. À découvrir en concert le 6 avril dans le cadre du festival Banlieue Bleue et tout à l'heure avec Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires à 13h30 TU. RFI.